bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux ce matin. Ce matin, je vous propose une réflexion autour d'un récit biblique du Premier Testament. Un récit autour d'un personnage qui ne fait pas partie du peuple d'Israël. Un événement extérieur au peuple d'Israël, mais un événement marquant, puisque différents auteurs de textes bibliques y font allusion ultérieurement. Balaam, ça vous parle ? Balaam. D'abord le contexte. Après la sortie de l'esclavage en Égypte, le peuple d'Israël émerge du désert et croise des peuples autochtones à l'approche de la terre promise de Canaan. Devant le refus du peuple amoréen de laisser passer le peuple d'Israël, en Nombre 21, verset 22, le combat est engagé et Israël est victorieux. Comme les Amoréens avaient battu antérieurement les Moabites, le roi de Moab, Balak, souhaite éviter un affrontement avec Israël. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est une offensive diplomatique. Le contact est pris avec les anciens de Madian, les voisins, et l'idée est de faire intervenir Balaam, un devin dont les paroles ont la réputation de changer le cours de l'histoire du monde. Nous lisons en Nombre 22, les versets 2 à 21. Balak, donc le roi de Moab, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez la nuit ici, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, eh bien lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Nous lirons la suite plus tard. Il Les gouvernants d'hier et d'aujourd'hui ne sont pas tous des va-t-en-guerre violents et sanguinaires, et le roi de Moab, Balak, espère qu'une forte mobilisation diplomatique pourra éviter l'affrontement physique contre Israël. Allié avec les Madianites, il cherche à motiver un personnage réputé, Balaam, dont on dit que celui que Balaam bénit est béni et celui que Balaam maudit est maudit, comme nous avons lu au verset 6. Une affaire réglée entre hommes dans le dos du peuple d'Israël qui, pour sa part, joue quand même sa survie après une quarantaine d'années dans le désert. Une affaire réglée comme si Dieu n'existait pas. Une affaire réglée en méconnaissance du plan de Dieu pour le peuple élu. L'offensive diplomatique a probablement duré plusieurs mois. Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, paraît-il, ça pourrait être l'Euphrate, était à plus de 500 km de Moab. Une première délégation présente la demande de Balak à Balaam, qui a besoin d'un temps de réflexion. On n'est pas toujours obligé de répondre immédiatement à une demande, même si cette demande émane de personnes représentantes de l'autorité politique. Balak demande un délai, une nuit, avant de donner sa réponse. À l'époque déjà, on savait que la nuit porte conseil. Avant une prise de décision qui engage notre avenir, n'hésitons pas, comme Balaam, à prendre du recul, peser le pour et le contre, et surtout se donner le temps de se mettre à l'écoute de Dieu. Une fois de plus, la Bible nous enseigne que Dieu nous parle plus souvent dans un environnement calme, la nuit par exemple. Nous pouvons décider avec lucidité, en faisant abstraction de nos intérêts matériels immédiats, et afin que nous prenions conscience des conséquences prévisibles sur notre vie et sur la vie de notre entourage pour notre décision à prendre. L'échange entre Dieu et Balaam est d'une simplicité biblique. Une question de la part de Dieu dans le style « C'est quoi le problème ?» pour vérifier que celui qui a une décision à prendre a bien compris là où sont les enjeux. Et la réponse de Dieu est tout à fait claire. « Tu n'iras pas. » Tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Dieu aurait pu rajouter, tu es suffisamment informé et suffisamment intelligent pour comprendre que Israël est le peuple élu et que la descendance d'Abraham est bénie de génération en génération, et même que, au final, toutes les nations de la terre seront bénies en la postérité d'Abraham, parce qu'il a été obéissant, comme nous pouvons lire en Genèse 22, au verset 18. Alors, dit Dieu, Balaam, n'y va pas, ça ne sert à rien. Lorsque nous avons une décision à prendre, un choix à faire, n'hésitons pas à prendre du temps pour nous mettre à l'écoute de Dieu, à prendre du temps pour mettre le problème à plat, comme on peut dire, à nous rappeler dans quel monde nous vivons pour ne pas nous mettre en porte-à-faux avec le cours de l'histoire du monde que Dieu a fixé. Balak, roi de Moab, cherche un arrangement avec ses voisins de Madian et la mobilisation d'un homme influent de son époque pour régler le sort du peuple d'Israël, comme si les hommes, si puissants et riches soient-ils, pouvaient faire abstraction du plan de Dieu pour l'humanité. Aujourd'hui, les puissants de ce monde sont réunis à Biarritz, et tels les Balaks de l'époque, ils vont chercher à nouer des alliances, à faire intervenir des devins, prévisionnistes, scientifiques, lobbyistes de toutes sortes, avec la conviction que l'histoire du monde se gère entre humains, avec des rapports de force entre les nations, entre des confrontations de puissances militaires et des affrontements économiques, comme si Dieu n'existait pas, comme si ce que révèle la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, ne s'adresse pas à l'ensemble de l'humanité tout au long de l'histoire du monde. Puisse l'un ou l'autre de ses puissants ou de leurs conseillers, être à l'écoute de ce que Dieu peut et veut leur dire afin que le monde devienne plus paisible et plus juste. Au petit matin, la réponse est claire. Balaam n'ira pas prononcer une parole de malédiction contre le peuple d'Israël. Les affaires concernant l'histoire du monde ne se règlent pas en faisant abstraction de l'existence de Dieu. Dieu existe que nous le fassions intervenir dans nos choix, dans nos décisions ou pas. Il est quand même présent. Il est souverain. J'irais même dire que les grands de ce monde, si grands soient-ils, ne jouent pas dans la même cour. Dieu est éternel. Les hommes, les femmes peuvent marquer l'histoire du monde, pour certains, mais leur existence est somme toute aussi éphémère que nous tous qui subissons les conséquences de leurs décisions, bonnes ou mauvaises. Balak est un homme entêté. Il augmente les moyens humains et matériels pour arriver à ses fins. Balaam, qui avait reçu une réponse limpide la première fois, reçoit une nouvelle réponse de la part de Dieu sous la forme « Vas-y, mais je te préviens, je veillerai personnellement à ce que la situation ne dérape pas. » Quelle belle réponse rassurante et qui nous conforte dans notre conviction que Dieu dirige les affaires du monde malgré les intrigues organisées par les uns et les autres. Au niveau de l'enjeu final, Dieu contrôle. La planète est en danger. Nous allons la sauver, proclament nos devins du XXIe siècle. Ont-ils une piètre connaissance du plan de Dieu pour l'humanité? Pour paraphraser la réponse de Dieu à Balaam lorsqu'il dit « Tu feras ce que je te dirai », j'ose annoncer que pour la planète, il adviendra ce que Dieu voudra qu'il advienne, et au temps voulu, selon sa toute-puissance et sa souveraineté. La Bible ne nous présente pas Balaam comme un homme de Dieu. Au contraire, il pratique la divination, il mobilise probablement les forces occultes, il travaille pour l'argent, pour lui-même, et pourtant, Dieu lui parle pour l'éclairer. De nos jours encore, et quotidiennement, des personnes qui ne font pas partie du monde chrétien, du monde protestant ou du monde évangélique reçoivent occasionnellement des réponses à leurs questions, des appels pour mettre en œuvre des projets qui vont dans le sens de l'histoire voulue par Dieu pour l'humanité. Plus concrètement, à mon sens, Dieu encourage l'engagement pour la paix entre les nations, la lutte contre la prolifération des armes létales, contre les armes de destruction massive, la préservation d'un environnement viable, la lutte contre l'ignorance et le manque d'éducation, et l'engagement pour la justice partout dans le monde. Continuons la lecture avec le récit de Balaam en Nombre 22, les versets 22 à 38. Donc Balaam se leva du matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Donc la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes, il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma, il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et dit à Balaam « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois ?» Balaam répondit à l'ânesse « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour ? Ai-je l'habitude de te faire ainsi ?» Il répondit « Bah non !» L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà trois fois ? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. » L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà trois fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie sauve. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, je ne savais pas que tu étais placé au-devant de moi sur le chemin, et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec les hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait, Il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de l'Arnon, à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam, « N'ai-je pas envoyé des messagers auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur ?» Balaam dit à Balak, « Voici, je suis venu vers toi maintenant. Me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. » Dans la suite de notre récit, deux nouveaux personnages apparaissent. L'ânesse de Balaam et l'ange de l'Éternel. Un animal parfaitement visible et qui interagit avec Balaam. L'ânesse est à son service pour faire les 500 km du déplacement vers Moab. Et quand on se déplace, en fait, on n'aime pas que la monture fasse les siennes. Sortir du chemin, écraser la chambre en se serrant contre la paroi rocheuse pour finalement s'affaisser en plein milieu du chemin. Comme tous les humains entreprenant et se déplaçant pour affaires, les aléas liés au transport sont insupportables. La réaction violente contre un animal sans défense ou presque est parfaitement inappropriée et la suite du récit nous le confirme. Différentes techniques permettent probablement de faire avancer une ânesse. Vous connaissez tous la légende du bâton et de la carotte. Pousser, tirer, frapper un âne pour qu'il avance est parfaitement voué à l'échec. La seule chose qui permette de ne pas compromettre définitivement le projet de voyage est de faire preuve de patience, d'attendre le moment favorable au franchissement des obstacles. Balaam a été fortement contrarié lors de son voyage par son moyen de transport. Ce passage nous incite plutôt à nous décentrer de notre personne, à prendre en considération le monde vivant autour de nous. L'homme ne peut pas vivre harmonieusement avec le monde vivant qui l'entoure s'il use de violence dès que ce monde ne fonctionne pas dans son intérêt et selon sa volonté. Le deuxième personnage de cette partie du voyage, c'est l'ange de l'Éternel avec son épée. Cet ange de l'Éternel fait visiblement partie de ce que l'humain ne peut pas voir lorsqu'il est centré sur lui-même, mais qui est néanmoins présent à nos côtés ou en face de nous. Dans ce récit, au verset 22, nous avons lu que la colère de Dieu s'enflamma parce que Balaam était parti, bien que dans la réponse reçue auparavant, Dieu lui avait dit de faire le voyage vers Moab. La colère de Dieu a toujours un but pédagogique. La méchanceté, la violence, le péché des hommes lui est insupportable. Adam et Ève sont exclus du jardin d'Éden. Le déluge met en péril l'avenir de l'espèce humaine. Sodome et Gomorrhe sont détruites par le feu à cause de leur inconduite. Israël subit les attaques des voisins et finit en exil à cause de leur idolâtrie. Le peuple d'Israël est dispersé parce que le culte rendu à Dieu est devenu une affaire de pouvoir et d'argent. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, dit le proverbe. Pour ne pas subir la colère de Dieu, Jésus nous a montré le chemin à suivre et les valeurs en adéquation avec le royaume de Dieu à venir. La partie la plus cocasse, la plus invraisemblable de l'histoire est cette ânesse qui se met à parler et qui interpelle Balaam pour dire « Si tu pouvais voir ce que je vois, tu comprendrais qu'entre toi et l'ange de l'Éternel qui me menace, je n'ai pas le choix malgré ma bonne volonté et mon dévouement. » Les yeux de Balaam s'ouvrent et la vision de l'ange de l'Éternel le pousse à la reconnaissance de son péché, son orgueil, son égocentrisme, son comportement violent envers son âne, prêt à faire demi-tour pour que cette affaire pénible de malédiction n'ait pas lieu. Nos yeux ne nous permettent pas de voir les anges que l'Éternel met à nos côtés. Mais comme Balaam, pour mieux les voir, il faut nous détourner de notre égocentrisme, reconnaître notre péché et nous humilier devant l'Éternel, et notre voyage terrestre pourra continuer jusqu'à son terme. Après ces péripéties et cette constatation qu'une ânesse peut être plus clairvoyante et plus sage qu'un devin de grande réputation, la rencontre entre le donneur d'ordre Balak, roi de Moab, et l'exécutant Balaam peut se faire. Pour Balak, une fois qu'il est là, l'affaire est dans le sac. Une petite malédiction par un devin de grande réputation et le peuple d'Israël sera défait par les Moabites. C'était le but de la tractation. Mais Balaam a été échaudé. Son déplacement a été largement semé d'obstacles et devant l'ange de l'Éternel, il vient de confesser ses péchés et de reconnaître une fois de plus l'autorité et la puissance du Dieu d'Israël. Il informe directement Balak que l'histoire du monde n'est pas un arrangement entre un chef d'État et un influenceur, mais de toute évidence, Dieu aura le dernier mot. Et ces mots ne s'achètent pas. Une première rencontre au sommet est organisée, 7 autels pour préparer 7 taureaux et 7 béliers, une mise en scène spectaculaire, probablement la convocation de la presse internationale, pour bien communiquer sur l'événement afin qu'il pèse dans le cours de l'histoire. Et voilà le moment de prononcer les paroles que Dieu met dans la bouche de Balaam. Et nous lisons dans Nombre 22, versets 8 et 9. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers et je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Balak est hors de lui. Cette provocation lui est insupportable. Et il découvre également que Dieu est aux commandes, qu'il en soit conscient ou non. Une deuxième tentative est mise en œuvre pour que Balaam au moins ait moins de pression. On ne lui fera voir qu'une partie du peuple d'Israël. Comme ça, il est moins impressionné de la multitude d'Israël qui campe près de la frontière de Moab. À nouveau, Balaam prononcera les paroles que Dieu met dans sa bouche. Et nous lisons dans Nombre 22, les versets 18 à 24. Non, on est déjà 23, pardon. 23, 18 à 24. Donc c'est la deuxième fois. Balaam prononça son oracle et dit « Lève-toi, Balak, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Au verset 19, quelle parole rassurante pour nous encore aujourd'hui. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? À ces questions, la réponse est évidente. Dans la marche en avant de notre monde terrestre, Dieu est aux commandes. Que ça nous arrange ou pas, les humains peuvent se faire du mal entre eux ou faire du bien entre eux. Dieu, lui, est fidèle pour l'éternité, malgré nos égarements. Une troisième tentative est organisée avec les autels et les taureaux et les béliers, et c'est carrément les paroles que l'Esprit de Dieu met dans la bouche de Balaam. Nombre 24, les versets 2 à 9. Balaam leva les yeux et vit Israël campé selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit « Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Qu'elles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle, il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te maudira. Prononcer des paroles de bénédiction ou prononcer des paroles de malédiction n'est pas neutre. On imagine facilement que des paroles bienveillantes ou des paroles apaisantes diffusées par les réseaux sociaux ou les médias modernes, journaux, radio, télévision, améliorent les relations interpersonnelles et internationales. Au contraire, des paroles de violence, de haine, d'intolérance, les appels à la guerre entraînent directement des situations conflictuelles, des souffrances, de la misère et de la pauvreté. On peut imaginer que Balaam ait pu répondre à la demande de Balak en prononçant une parole de malédiction sur Israël et que ces paroles détruisent la confiance du peuple élu dans le projet de Dieu pour la conquête du pays de Canaan. Une parole de malédiction aurait pu interrompre la bénédiction divine sur Abraham et sa descendance. On se rend compte que de simples paroles prononcées, des textes publiés par des humains peuvent orienter la destinée de l'histoire de l'humanité pour un temps. Si Balaam avait prononcé une malédiction sur le peuple d'Israël, le cours de l'histoire aurait changé. Mais Dieu, et lui seul, dirige et contrôle le déroulement de l'histoire du monde. Balak, le Moabite, a appelé contre Israël, a pris d'argent Balaam pour qu'il le maudisse. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction, rappelle Josué, chapitre 24, les versets 9 et 10. Dans le monde actuel, tous les jours, nous pouvons entendre les journalistes, les responsables politiques, les acteurs de l'économie prononcer des paroles qui influencent l'histoire du monde. La Bible nous enseigne que Dieu est souverain au-delà de ce que les hommes essaient de mettre en place. La tour de Babel n'a pas été réalisée. Balaam n'a pas pu prononcer de malédiction contre le peuple descendant d'Abraham. La condamnation à mort de Jésus sur la croix n'a pas empêché la proclamation de l'avènement du royaume de Dieu. Notre propre discernement nous permet de reconnaître une parole bienveillante qui sera en bénédiction pour l'humanité par opposition à une parole ou un tweet haineux qui déclenche ou aggrave des situations conflictuelles. Lorsque le chef d'État du Vatican appelle à la paix, qu'il met en avant des paroles de l'Évangile, qu'il dénonce le traitement inhumain des personnes migrantes, on peut estimer que l'Esprit de Dieu est sur lui, comme il l'a été sur Balaam en son temps, au moment de la troisième parole de bénédiction. Balaam est cité dans le Nouveau Testament, dans 2 Pierre 2, versets 15 et 16. Un texte qui parle des prophètes de mensonges pour les présenter comme des animaux dépourvus de raison. Un peu le prophète Balaam qui est pire que son âne, quoi. Ils n'ont même pas la sagesse d'une ânesse. Les prophètes de mensonges et ceux qui les suivent se laissent entraîner dans toutes les dérives au lieu de rester dans le juste chemin. Dans l'Apocalypse 2, au verset 14, une allusion est faite à l'histoire de Balaam et Balak dans la lettre à l'église de Pergame. En public, devant les caméras, comme on dirait aujourd'hui, Balaam n'a pu que bénir le peuple d'Israël. Mais la suite de l'histoire, quand on continue de lire un petit peu, nous raconte que les filles de Moab sont allées voir les Hébreux pour les séduire et les conduire à la débauche et à l'idolâtrie. On lit ça dans Nombre 25. C'est Balaam, et on le lit encore une fois dans Nombre 31, verset 16, qui aurait suggéré, en dehors de sa communication officielle, comme on dit, cette stratégie à Balak pour affaiblir Israël. Les commentaires concluent que lorsque Balaam n'a pas pu maudire Israël, il s'est débrouillé quand même pour l'atteindre autrement, en envoyant les filles de Moab pour corrompre les enfants d'Israël. Ce que Balaam n'a pu faire par la malédiction, il l'a fait en incitant les hommes d'Israël à la débauche pour finir dans l'idolâtrie du culte de Baal. L'épître de Jude, qui met en garde contre les faux prophètes, cite également Balaam. Il souligne que c'est l'argent qui a motivé le déplacement de Balaam. Et Balaam devient le modèle de l'homme de Dieu, à temps partiel, occasionnel, qui préfère l'argent et les honneurs terrestres, plutôt que la fidélité dans la relation avec Dieu. Pour conclure, rappelons quelques points. Dieu parle aux humains, les hommes et les femmes peuvent l'entendre ou rester sourds à ses paroles. Dieu laisse la liberté aux humains de mener à bien leur action dans des limites que Dieu lui-même a fixées. On peut être à l'écoute de Dieu et néanmoins choisir en priorité le pouvoir, les honneurs et l'enrichissement personnel. Temporairement et malgré eux, certaines personnes peuvent être amenées à s'exprimer selon l'Esprit de Dieu, en cohérence avec le projet de Dieu qui est et qui reste un projet de restauration des relations interhumaines et de la relation des personnes avec Dieu, un projet de justice et de paix pour le monde. Soyons vigilants pour ne pas nous laisser entraîner dans l'idolâtrie par toutes sortes d'influences que nous subissons. Et avec Jude, nous proclamerons: Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous laisse paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen.